des questions.
Bonjour, Gilles Flourens.
Bonjour.
Je voulais simplement savoir, en termes de production, quels ont été les temps entre la conception, le prise de vue, on va pas dire tournage, ou les deux, et ensuite la post-production et le développement web. Première chose. Et deuxièmement, quel effort avez-vous dû faire pour peut-être délinéariser votre narration?
C'est intéressant. Alors, bon, pour le temps, comme je le disais, c'est long, c'est un an globalement. Peut-être qu'on peut aller plus vite. On est en train de, enfin, pas que, d'ailleurs, pas moi, mais mon producteur est en train de développer un logiciel qui serait une sorte de banc de montage de web documentaire qui permet de générer du code XML, enfin, donc du code pour Internet. Il y a pas mal de sociétés qui commencent à essayer de travailler sur ce type d'outils qui seraient accessibles gratuitement ou pas. Bon. En tout cas, je pense que ça va permettre de faire gagner beaucoup de temps et de faire gagner aussi, enfin, de faire des économies en termes de production. Mais il ne faut pas oublier, et ça c'est quand même quelque chose qui est très important, c'est qu'on dit qu'aujourd'hui les photographes peuvent faire des vidéos parce qu'effectivement ils ont des boîtiers qui leur permettent de faire des vidéos, mais il y a aussi une prise de son sur ce boîtier, et puis quand on fait un web documentaire, il y a du développement. Tout ça c'est des métiers. Moi je ne suis pas ingénieur du son, je n'ai pas appris à être ingénieur du son, je ne suis pas vidéaste, je ne suis pas réalisateur, et on se retrouve avec des journaux qui éventuellement nous disent, ah bah si tu vas faire le portrait de machin, tu vas aussi faire une vidéo, comme ça ce sera pour le site. J'ai envie de leur dire, mais est-ce qu'il vous viendrait à l'idée de faire appel à un réalisateur et vous savez combien ça coûterait de faire réaliser un film pour Internet? Donc finalement, à partir du moment où il y a où il y a l'outil, on imagine que on a le savoir-faire et qu'on va faire de la qualité, des objets de qualité parce qu'on a l'outil. Mais je ne pense pas que la génération qui a eu des caméscopes dans les foyers a fabriqué nombre de réalisateurs. Donc, je pense que ça, il faut faire très attention. Donc, même si l'outil de création du web documentaire existe, ça n'enlèvera pas le fait que avoir quelqu'un qui est capable de faire de la création graphique et de se poser des questions sur la façon dont on raconte une histoire, aussi avec la façon dont tout simplement les boutons, la sobriété, peut-être des jeux dynamiques. Aujourd'hui, on fait plein de choses avec le web, donc c'est aussi une façon de raconter une histoire. Il y a un travail du son là. Quand on déploie une image comme ça en plein écran, on peut raconter une telle ambiance avec le son. On peut vraiment déployer une histoire. Là, encore une fois, c'est un vrai travail de création sonore. Donc, même si les outils font en sorte que ce soit de plus en plus facile de fabriquer des choses, ça ne veut pas dire pour autant qu'on va être capable de faire des choses de qualité. Et faire des choses de qualité, ça prend du temps, et surtout, ça prend beaucoup de gens, et donc ça veut dire beaucoup d'argent. Et donc, quand un sujet sur la Chine moyen me coûtait, disons, 5 000 euros, un des volets, eh bien, aujourd'hui, un web documentaire est beaucoup plus proche de 50, 60 000 euros parce qu'il y a peut-être 10 personnes à payer. Et pour aller chercher 50 ou 60 000 euros, eh bien, il faut sacrément convaincre. Et donc, pour convaincre, eh bien, il faut raconter un peu plus ce qu'on va raconter. Il ne faut pas juste dire, bah, je vais aller dans les mines chinoises, je vais raconter, vous allez voir, les destins sont effroyables. Donc, il y a une intention à écrire, il y a un scénario, etc. C'est-à-dire qu'il y a un travail d'écriture qui se fait en amont, qui est évidemment au service de la création et de la narration, mais qui est aussi au service de la recherche, de la levée de fonds, en fait. Donc tout ça prend du temps, beaucoup plus de temps que d'essayer d'appeler trois journaux et de dire file-moi 2 000 euros parce que je voudrais essayer d'aller faire un sujet en Chine. Ça, évidemment, c'est. Mais la presse aurait pu être un coproducteur. Pour le moment, elle ne l'est pas. Je ne sais plus, vous m'aviez posé une deuxième question aussi. Oui, ça c'est une question qui est finalement beaucoup plus intéressante. Alors, sur le voyage au bout du charbon, finalement, c'est une histoire qui est relativement linéaire. Globalement, on fait le voyage en une quinzaine de minutes, et puis il y a des boucles qui permettent d'avoir. De toute façon, moi, je suis fondamentalement contre, mais c'est un parti pris, hein, le côté il faut donner la main à l'internaute, en permanence, il doit pouvoir décider de tout, etc. Si ça continue, on va recevoir des mails sur notre iPhone en nous disant l'internaute machin a décidé qu'il fallait que tu photographies truc et que tu poses telle question. Mais là, pour le coup, moi, je suis journaliste et je revendique ma position d'auteur. C'est moi qui pose les questions et qui ai la main sur ce que je raconte. Donc, même si là, je vais jouer avec ce registre-là, parce que l'idée, c'est évidemment d'essayer d'aller chercher un public que je n'aurais pas en presse, que je n'aurais pas dans l'édition d'un livre. Ce qui n'empêche pas que ce projet ait fait l'objet d'une grande exposition, d'un bouquin chez Textuel, de portfolio, etc. Il faut démultiplier les supports parce que c'est à chaque fois des publics différents. L'enjeu pour le photographe que je suis et que sont beaucoup de photographes, c'est quand même d'essayer de faire en sorte que ça serve à quelque chose qu'on fasse tout ça et que ça touche des gens et le plus grand nombre possible. Donc il faut en permanence essayer d'adapter le même matériel, finalement, le même discours, parce que les images sont les mêmes, les légendes sont les mêmes, les textes qui s'affichent racontent exactement la même chose. Et c'est d'essayer de le déployer à chaque fois pour un support qui va aller toucher un type de public. Donc pour revenir à la linéarité, je pense qu'encore une fois, trop linéaire sur le web, c'est finalement, ça revient à faire de la vidéo ou de l'audio slideshow. Et en plus, s'il n'y a qu'un seul bouton où on donne à l'internaute le sentiment qu'il va cliquer une fois, bon, ça, c'est le prendre pour un con, encore plus. Mais moi, je mets deux boutons. Donc, du coup, il a l'impression d'avoir un choix. Mais les deux choix sont complètement scénarisés. Mais je le prends pas pour un con par ailleurs. Mais l'idée, c'est qu'évidemment, c'est moi qui ai la main et tout est écrit. Tout est écrit, quel que soit le trajet de l'internaute, c'est écrit. Et en plus, je fais en sorte qu'il passe par des passages obligés, qui sont des passages de l'information que je ne veux pas qu'il puisse éviter. C'est ça l'enjeu. Alors, sur le deuxième projet qui s'appelle The Big Issue, c'est un travail sur l'obésité et c'est une approche sociétale de l'obésité aux États-Unis, chez les Indiens Mohawk au Canada, au Parlement européen, dans le nord de la France, etc. Et encore une fois, là, on a essayé de s'attaquer à un sujet, d'essayer d'être d'aller le plus en profondeur possible. Et on a essayé, en gardant le même type de narration, de faire plusieurs documentaires qui s'entremêlaient. Et même, on a poussé la tentative jusqu'à essayer de faire plusieurs fins. Et donc, l'internaute se balade et va peut-être finir. Et puis après, il accède au menu et il peut repartir, voir des séquences qu'il n'a pas vues, etc. Eh bien, je pense que c'est une erreur. Déjà, le projet fait... Si on décide de vraiment tout voir, on peut rester 45-50 minutes. Et ce qui est intéressant avec le web, c'est qu'on s'immisce entre deux moments de l'internaute. Et en arrivant à le capter et à l'emmener dans un parcours comme ça de 10-15 minutes, on peut lui raconter une histoire. Mais au bout de 15 minutes, quand même, il reprend la main et se dit « Mais j'étais pas venu pour ça ». Et du coup, il repart. Donc, je pense qu'il faut faire attention au format, par exemple. Ça, c'est une erreur qu'on a fait sur le deuxième. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est en défrichage total. Donc, à chaque fois, on essaye des nouvelles choses. Il y a des choses qui sont intéressantes, d'autres moins. Et donc, je pense que notamment le format, il ne faut pas faire un long format sur le web. Parce qu'on n'arrive pas à capter l'internaute et à ce qu'ils se disent « Ah bah, ce week-end, je reviendrai voir l'obésité pendant 45 minutes. » Donc, du coup, là, encore une fois, il y a quelque chose à trouver et peut-être un juste milieu à trouver sur la linéarité. Je pense que plusieurs fins, c'est pas bien. C'est comme un livre qui finirait avec plusieurs fins. Ben, on a besoin de savoir qui a tué le héros à la fin, quoi. Et donc, ça peut pas être... Enfin, moi, j'ai le sentiment que ça peut pas être trop démultiplié comme ça. Mais c'est sur la base de cette première expérience. Peut-être qu'un autre projet, j'imaginerais qu'il soit beaucoup plus en étoile... Voilà, c'est des dosages.
Bon. Christian Cogel, je voudrais juste souligner une chose. Moi, je l'ai regardé beaucoup de fois. Il y a une chose que je trouve vraiment remarquable et je ne comprends plus rien d'ailleurs du côté de la presse. Je ne comprends pas que la presse, pour les sites, ne produise pas ce type de narration. Il y a une chose qui est intéressante historiquement, c'est que ce type d'objet, jamais aucun photographe n'a eu un tel contrôle sur l'état éditorial de son travail. Jamais. sauf s'il a fait de l'auto-édition et qu'il a fait du bouquin. Donc ça, je pense que c'est justement un assez bel exemple de comment un état de crise peut permettre de renverser les choses en termes de contenu. L'autre chose, c'est évidemment par rapport à la notion de narration, qui est enfin, pour moi terriblement désespérante sur le net. Je ne parle pas des sites de photographes ou d'agences, et même dans une des choses qui me paraissent le plus abouti, un certain nombre de choses sur le site du New York Times. Je pense que on voit bien que les questions qui étaient posées tout à l'heure de façon pas très pertinente, je crois, sur l'image fixe et l'image animée, c'est aujourd'hui on est dans un monde qui est un monde d'images, et donc la question est celle de comment est-ce qu'on articule les images pour donner à chacune une fonction qui va enrichir ou limiter l'autre image. Il y a des moments dans le montage, puisque c'est un travail de montage, où, de façon très précise, une image fixe va empêcher que la narration vidéo dérape vers un récit qui serait incontrôlable ou incontrôlé. Et là, on a on a y compris de l'expérience qui est différente de celle de tout ce qu'on connaît au cinéma et en vidéo du point de vue du montage. C'est autre chose, mais des choses qui n'ont rien à voir, mais qui m'ont fait penser à certains... Il y a des choses à tirer, il faut revoir la jetée pour continuer à travailler là-dessus. Parce que je pense qu'il y a des solutions dans la jetée pour les web documentaires. Donc c'est tout cet ensemble de choses, je pense, qui est en jeu. Et une des choses qui est extrêmement satisfaisante, je dis vraiment tant pis pour la presse si elle passe à côté une fois de plus, c'est qu'alors qu'on a, et ça je parle d'expérience, pendant 20 ans, on n'a rien réussi à imposer à la télévision comme traitement de la photographie ou avec la photographie, le fait que les télévisions ou des télévisions, parce que TV5, c'est pas n'importe quelle télévision.
Il y a Arte aussi.
Je dirais que c'est pas non plus n'importe laquelle. S'implique dans ce genre de projet, c'est plutôt rassurant, y compris parce que ça veut dire que l'image fixe, sous certaines modalités, peut avoir sa place à la télévision.
Non, mais en plus, moi, je me suis toujours posé la question de quand on voit combien d'images on voit chaque jour passer devant nos yeux, comment on fait pour essayer de faire une image qui va juste arrêter le flux. Et du coup, pour moi, ça sert seulement à ça, la photographie. C'est un outil pour essayer d'aller capter l'attention et pour après faire passer, encore une fois, un discours, soit sonore, soit écrit, soit parce que justement, ça va permettre de faire lire un texte ou quelque chose comme ça. Et ce qui est intéressant avec le documentaire sur le web, là, c'est que ces images en plein écran, effectivement, le travail sonore, on se rend compte que ça marche. Il y a beaucoup ça avec les visiophones. Ça marche pas du tout, les visiophones. Parce que quand on a quelqu'un au téléphone, on refabrique tout l'univers qu'il y a autour. Chacun se fabrique son univers juste au son de la voix. Et le fait de voir que les gens sont... Enfin bon, d'avoir l'image vient complètement couper court à cette refabrication, à cette création mentale. Et je pense que ce qui est intéressant avec le web documentaire, c'est ça. C'est qu'il y a une image, mais qu'après se déploie tout un univers sonore qui permet... au spectateur d'enrichir ce contenu et de lui-même imaginer, et donc il va beaucoup plus loin que la photographie avec le son. Et là, il y a quelque chose aussi à mon avis qui est intéressant à travailler, à fabriquer des binômes avec des preneurs de son, avec des gens qui ont envie de créer des objets sonores. Et évidemment, ça place encore une fois le photographe comme un réalisateur finalement, même s'il peut être co-auteur d'un projet, mais il est au-delà du simple opérateur de photographie.
Oui, mais en même temps, Samuel, tu montres bien que les frontières sont quand même pas très très bien définies, parce que à la fois tu te revendiques pleinement comme un journaliste. Je crois que tu as beaucoup insisté sur ta façon de travailler, sur ta façon de monter, qui est celle d'un journaliste. En même temps, tu as dit que tu avais été subventionné d'abord par le ministère de la Culture, ensuite par des chaînes de télévision, dont le but premier n'est pas de produire de l'information, que la presse finalement...
Oh, il y en a un peu sur les chaînes de télé quand même aussi.
Mais globalement quand même, ce n'est pas la presse dont la première mission est d'informer qui se met sur les rangs. Et ceux qui pour l'instant mettent quasiment le plus d'argent sur la table, c'est le CNC qui a quand même un fort développement sur le web documentaire. Alors, comment vous allez pouvoir un peu tenir les deux rênes, là, à la fois du côté des financements et du côté de la presse, c'est-à-dire de l'information?
Je ne sais pas comment on va tenir les rênes. Pour le coup, si j'avais une vision aussi assurée, je me porterais bien, mais... Non, je pense que moi, j'ai pas le sentiment que d'être subventionné par le ministère de la Culture m'empêche d'être journaliste, et j'ai surtout pas l'impression que ça me rend plus journaliste quand je travaille pour certains journaux.
Mais simplement, comme tu l'as dit, le ministère de la Culture va pas te subventionner
à chaque fois,
et va surtout pas subventionner tout le monde.
On est d'accord.
En tout cas, pas autant de monde que pourrait subventionner la presse.
Oui, mais finalement, c'est là où c'est compliqué aujourd'hui, c'est... C'est sur la position. Peut-être que la position qui est difficile à tenir, c'est la position du réalisateur finalement, parce que nombre de réalisateurs de documentaires n'ont pas de carte de presse, sûrement la plupart même. Mais ça n'empêche pas qu'ils réalisent des enquêtes, qu'ils sont des auteurs et qu'ils ont une subjectivité qu'ils revendiquent. Alors après, peut-être que c'est moi qui m'accroche à ça. C'était aussi un enjeu compliqué parce qu'on m'attaquait en me disant que j'avais franchi le mur de Berlin en tant que journaliste, d'oser comme ça utiliser ce registre un peu ludique pour présenter une enquête. Bon, donc je me défends et j'aime bien discuter, donc ça va. Mais puis quand on voit ce qu'on trouve dans les journaux et même ce qu'on regarde au journal de 20h, je m'étonne qu'il n'y ait pas plus de tribunes contre tous ces journalistes qui franchissent le mur de Berlin quotidiennement. Mais moi, ce que j'engage, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est ma position d'auteur, ma subjectivité et mon honnêteté, mon éthique. C'est-à-dire que les gens savent très bien, quand ils viennent voir ce documentaire, que c'est le point de vue et le travail de Samuel Bollendorff sur les mines de charbon. Et finalement, ils viennent chercher, enfin, ils acceptent cette objectivité et cette prise de position qui est éventuellement même de mauvaise foi. Alors, ça pose la question du fait de s'accrocher à la carte de presse. Moi, là où je m'accroche à ma carte de presse, c'est pas pour l'abattement, parce que même si j'étais intermittent du spectacle avec des assédics, je toucherais beaucoup plus que ce que me fait économiser un abattement de carte de presse. Mais c'est parce que justement, quand je dis que je suis journaliste, je peux discuter avec des gens qui se disent journalistes et qui disent « Non, franchement, c'est pas bien ce que vous faites. » Mais alors, si en plus, j'étais pas journaliste, mais ils me balayeraient d'un revers de main. Donc là, il y a quelque chose à revendiquer, et je pense qu'il y a un statut à faire évoluer aussi dans la carte de presse, parce que, ou alors peut-être pour les photographes qui doivent vraiment décider qu'ils deviennent des documentaristes et que finalement ils ne sont plus des journalistes. Ça, après, peut-être que c'est moi qui n'ai pas fait mon travail, je ne sais pas, intellectuel, mais... mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose là qui se joue et qui est effectivement un petit peu délicat.